I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On vous parle de consoles, de PC, de next-gen, de mobile, de processeurs, de tout ce qui fait notre merveilleuse industrie et notre merveilleux média. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui... Je ne sais pas comment te présenter, Dany. Mon meilleur ami, la plus belle personne
j'espère,
du monde.
J'espère, c'est la seule chose qui compte. Hein. Ton meilleur ami. J'espère que tous nos autres amis entendront ça. Et qu'ils comprendront l'ampleur de notre amitié.
C'est vrai. Dany, mon comparse depuis les tout débuts du podcast, de l'époque d'Azeroth.fr. Tu es en forme, tout va bien ?
Tout va bien. Et la seule chose que je regrette, en fait, c'est de ne pas avoir assez de temps pour plus jouer.
Écoute, je te comprends très très bien, je suis à peu près dans la même situation. Et on a aussi quelqu'un qui, lui, est jeune et fringant et qui donc a beaucoup de temps pour beaucoup jouer.
Bien sûr.
Évidemment, c'est Hugo de la formidable émission Game Next Door et du formidable podcast...
Du game.
Mais comment j'ai écouté comment celui... J'ai écouté celui sur Horizon Zero Dawn il y a 2 jours et il était formidable. Surtout...
Bah, super.
Surtout parce que Benoît a dû confirmer qu'il avait mangé son chapeau et qu'en fait, le jeu était bien alors qu'il ne l'avait pas aimé à l'origine.
Et ça te fait plaisir. Ah, et ça nous fait forcément. Tous plaisir, finalement.
C'est vrai.
Alors, Horizon Zero Dawn, j'ai dû m'arrêter au bout de 5 à 6 heures de play. Dany. Ça m'a un peu ennuyé.
Mais... Arrête. Oh, mais
aïe,
un
aïe,
peu.
Aïe.
Non, mais...
Ça y est, au revoir. Je sens que je vais me faire virer.
Dany,
pas du tout.
Ça t'a un peu ennuyé. C'est compréhensible. Les termes étaient un peu moins flatteurs dans la bouche de notre Benoît National.
Ah oui, d'accord.
C'était un peu ennuyé. Tous les jeux ne sont pas pour tout le monde. Nous sommes très tolérants.
Oui.
Ici, à part pour... Il y a certains trucs qu'on ne peut pas dire, mais je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, sinon on va se quitter fâchés. on fait des remarques sur Nier Automata dans la chatroom, puisque évidemment...
Je suis totalement d'accord. J'ai préféré de loin Horizon Zero Dawn. J'ai essayé 2 fois, je n'y suis pas arrivé.
Arrête-toi, on ne veut pas perdre tous nos auditeurs, Dany. On est effectivement sur Twitch en live pour ceux que ça intéresse, tous les jeudis à midi ou presque, on est sur Twitch en live et on fait avec les Patriotes un after show qui est également streamé. Aujourd'hui, si tout va bien, on devrait jouer à Among Us ensemble. Je ne sais pas si on va réussir à goupiller ça, j'ai jamais joué à Among Us. Donc bon, si vous êtes Patriote, vous aurez peut-être le résultat, je ne sais pas si on va enregistrer ça, de l'after show dans l'émission, et sinon vous pouvez regarder ça sur Twitch. Mais aujourd'hui, on va parler dans l'actu de plein de choses. On va parler des Ryzen 5000, les nouveaux processeurs d'AMD qui ont été annoncés. On va parler de Phil Spencer qui veut voir Xbox Game Pass arriver sur iOS. Bonne nouvelle pour tout le monde. De news PlayStation 5 et notamment d'un chat super-héros dans Spider-Man qui s'appellerait Spider-Cat. On est très sérieux. De l'importance de Genshin Impact que je suis en train de réaliser. Et de plein d'autres petites choses assez enthousiasmantes. Avant ça, j'aimerais tout de même remercier les gens formidables qui sont eux aussi les plus beaux et mes meilleurs amis qui soutiennent l'émission. Spécifiquement aujourd'hui, je voudrais remercier François Ribollet, Émilie Scarlett, Nicolas Cazot, Jimmy Shelmy, CC, Lucas Worms, Frédéric Boyer, Quentin Nanex, Mistrae et... comme tous les mois, et à vrai dire toutes les semaines en ce moment, les producteurs de l'émission, Stéphane Grégory Sata, Davizar Lancelot et Bazou42. Davizar Lancelot, je me demande si c'est pas Lancelot Davizar, peut-être. Tu peux me le dire si tu écoutes encore l'émission. Sinon, lui dites pas, hein, il est producteur de l'émission et ça, c'est beaucoup de sous. Donc, il faut surtout pas qu'il sache pour venir annuler sa contribution au Patreon. Ça s'arrête tout seul au bout d'un moment, de toute façon. Bon, en tout cas, merci à vous tous. Si vous aussi vous voulez faire partie de cette formidable famille, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeu. On en reparlera dans un petit moment. Alors, j'ai inauguré dans le rendez-vous tech une nouvelle manière de présenter les news principales, c'est-à-dire que je laisse les invités choisir quelle est la news de la semaine. Et bon, on va toutes les couvrir, mais je vais peut-être commencer avec Hugo, du coup. Parmi les news importantes de la semaine, quelle est pour toi celle qui est la plus importante dont on doit parler en tout premier ?
Et ben moi, ce serait plutôt autour de ce que tu as mentionné sur Genshin Impact, notamment parce que je ne suis absolument pas du tout ce jeu, mais par contre, je trouve qu'il vient s'inscrire vraiment dans cette tendance des jeux chinois à beaucoup plus rayonner à l'international. Et je pense qu'on est en train d'assister à un début de, enfin, c'est peut-être pas le début, je pense qu'on est déjà bien dedans, mais de bouleversement un peu de l'échiquier des gros jeux et des grandes entités en fait qui font le jeu vidéo AAA. Et je pense que les Chinois arrivent de plus en plus fort. Et j'ai l'impression que ce jeu témoigne de cette tendance-là.
Je crois qu'il y a effectivement beaucoup de perspicacité dans ce que tu dis là. Et en fait, j'ai rajouté Genshin Impact dans les sujets principaux de l'émission parce qu'il y a quelques heures, parce que beaucoup de gens commencent à en parler, mais ça, ce n'est pas tellement... étonnant, on parle de jeux régulièrement et c'est vrai que celui-là a de quoi faire parler, mais non seulement celui-là est particulier, mais en plus il s'inscrit dans une tendance plus large des jeux chinois dont on commence à parler en Occident. Il y en a plusieurs, hein. J'en ai noté dans l'émission, il y a j'en ai noté dans les notes de l'émission, il y en a un qui s'appelle Xuan Huan Sword 7, qui est un jeu qui existe depuis longtemps, une série qui existe depuis longtemps en Chine, et qui va sortir en Occident pour la première fois au 7e numéro, qui a l'air, qui va sortir, je crois, sur PS4, c'est même pas forcément sur Next Gen, bon, qui a l'air d'être un jeu sympa, hein, pas foncièrement différent des jeux occidentaux, même si je suis sûr qu'il y aura des impacts culturels. Mais c'est pas le premier, il y avait aussi celui sur le Monkey King semaines.
Ouais.
Je crois effectivement que cette génération va être la génération de la légitimisation des jeux chinois en Occident. Et à ce titre, Genshin Impact, c'est un moment hyper important parce que c'est non seulement un jeu dont tout le monde parle pour ses inspirations de Zelda, etc. Il est sorti il y a quoi, 2 semaines ? Il a déjà fait 100 millions de dollars. 100 millions. Alors, c'est vraiment un truc particulier parce qu'il est, c'est un jeu qui est complètement calqué sur le modèle mobile qui est très populaire en Chine et en Asie, avec beaucoup de gacha, sans doute beaucoup moins que les jeux habituels, donc il est quand même un petit peu plus concentré sur le gameplay et sur un modèle acceptable pour l'Occident en offrant beaucoup de contenu sans avoir besoin d'avoir recours au porte-monnaie. Mais il y a quand même, au bout d'un moment, on peut le faire. Et puis les mécaniques, j'en parlais il y a 2 semaines, sont complètement empreintes de ce modèle économique de gacha. Et puis, surtout, c'est le premier mobile gacha qui arrive... avec un aussi gros impact, sans mauvais jeu de mots, sur PC et sur console, sur PlayStation spécifiquement. Et c'est possiblement la porte ouverte à, certains diront, le cauchemar du gacha, du jeu gratuit gacha, sur les consoles et les plateformes traditionnelles. Ce modèle qu'on avait évité jusqu'à maintenant, qui était resté cantonné au mobile, mais il marche tellement bien, et il est tellement populaire en Chine, ce type de modèle, et au Japon d'ailleurs également, que je vois bien des développeurs à partir de maintenant se dire « bah écoutez, on fait un jeu pour mobile, on l'oriente un petit peu bien pour qu'il y ait suffisamment de contenu pour qu'il soit acceptable pour les joueurs traditionnels, et banco, vas-y, roule poupoule, on le sort partout, quoi. » À mon avis, c'est un moment vraiment important, Genshin Impact. J'ai bien résumé la situation, Hugo ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai qu'aussi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, ça fait longtemps qu'il y a énormément de studios chinois qui sous-traitent pour des gros faiseurs de AAA. On sait par exemple, je sais pas, tous les gros studios Sony, on sait qu'il y a beaucoup de studios fantômes, entre guillemets, qui sont en Chine et qui font énormément d'assets et de choses pour eux. Et je pense que bah, maintenant, ils ont vraiment acquis toutes ces compétences et ils vont pouvoir bah, proposer leur propre jeu. Et surtout, bah, voilà, ils ont une main-d'œuvre à la fois peu coûteuse et massive. Donc, ils vont pouvoir vraiment venir, je pense, sur les plates blancs des gros faiseurs de gros triple A et leur faire une nouvelle concurrence.
Ouais, je crois qu'il y a vraiment, de ça. Et puis, il y a des gens qui demandent dans la chatroom qu'est-ce que c'est que les gachas. C'est un petit peu les mécaniques de lootbox, effectivement. C'est souvent des personnages et on paye pour avoir, en gros, des lootbox d'où on va sortir des personnages, mais ça va plus loin que juste les personnages eux-mêmes qui vont être sortis de la lootbox. C'est des personnages de différentes raretés et de différents niveaux de puissance. Et souvent, non seulement on peut en avoir de différents niveaux de puissance, mais en plus, quand on les combine, il y a la possibilité d'augmenter la puissance. Donc, c'est les lootbox, on va dire, la version la plus... consommatrice aboutie des
lootbox. Ouais, c'est ça. En tout cas, d'un point de vue vraiment marketing, c'est vraiment des game design qui sont pensés pour créer beaucoup de récompenses, en fait, et beaucoup de récompenses extrinsèques et qui vont voir se cumuler. Elles sont aussi on peut les penser de manière un peu utilitariste, mais il y a aussi beaucoup de skins. Et en fait, tout ça combiné, bah, ça fait une espèce d'arme à générer de l'interaction et l'addiction, ce serait pas un bon mot, mais en tout cas de vraiment s'engager dans le jeu et de rentrer dans le jeu très facilement.
Et c'est aussi, à mon avis, un moyen de pérenniser en fait le jeu sur le long terme.
Tout à fait,
parce que finalement, ton super héros légendaire 5 étoiles plus que t'as chopé il y a 3 mois, bah il peut devenir obsolète du jour au lendemain avec le super héros 6 étoiles plus qui vient d'être implémenté.
Alors, il faut dire quand même, il faut avouer que de l'avis de tous ceux qui y ont joué très longtemps, des dizaines d'heures, il est vraiment parmi les plus honnêtes de ces catégories. Hein. Il est tout à fait possible de passer plusieurs dizaines d'heures dans le jeu sans débourser un sou, en s'amusant énormément. Mmh. Donc, il faut être honnête avec ce jeu-là spécifiquement. C'est clairement dans cette tendance, mais il a l'air d'être le bon élève de ces tendances. Mais ceci dit...
Tu ne penses pas que ça s'est amélioré ces 12 derniers mois par rapport à au tout début des gachas, justement, où à mon avis, j'ai vu une sorte de transition où les jeux sont de plus en plus généreux et permissifs par rapport à ce que c'était au début, probablement pour attirer un maximum de gens.
Bah, attirer et puis faire bons élèves par rapport au scandale qui ont eu lieu l'année dernière. Certainement, oui, c'est possible. En Asie, c'est moins le cas. Hein. En Asie, la chose n'est pas scandaleuse et surtout, les gens en sont très friands. Il n'y a pas du tout de régulation à ces propos. Il faut savoir que sur Genshin, comme sur tous les autres jeux de ce type aujourd'hui qui proposent des lootbox ou équivalents, il est possible de voir les pourcentages de chances d'avoir tel ou tel type de récompense. C'est assez intéressant. Moi, quand je l'avais testé, Genshin, j'ai vu dans les lootbox, ça ouvre très facilement depuis le menu du jeu, tu as une page web qui s'affiche et tu vois les chances d'avoir un truc et c'est vraiment 0,2% de chance d'avoir un truc légendaire. Au moins, on le sait maintenant. Enfin, je veux dire, c'est clairement indiqué. On savait toujours que c'était pas la folie, mais là, c'est...
C'est pas une loi qui est passée, ça, récemment?
Si, tout à fait.
C'était obligé, hein, voilà.
Il le ferait pas pour faire plaisir, on est d'accord, oui.
C'est le cas en Asie, par contre, tu vois, en Chine, au Japon, à Taïwan.
Alors, au Japon, je sais pas, mais en Chine, ils sont obligés de le faire, oui. La Chine, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que le modèle est très populaire, la Chine est assez sévère avec ce genre de choses. Donc, oui, ils sont obligé de le faire en Chine. Mais du coup, Genshin, c'est un jeu qui est sur mobile, sur PC, sur PlayStation 4. Je crois pas qu'il soit sur Switch, mais peut-être. Et c'est possiblement l'annonce d'une ouverture de floodgates, comme on dit en anglais. Et puis, l'importance de la Chine qui risque d'augmenter pendant cette génération.
Déjà avec Tencent, qui est déjà maintenant qui a des pions partout chez tout le monde quasiment. Donc oui, ils arrivent.
Ouais.
Je pense qu'aussi ça permettra un peu de rééquilibrer, culturellement, d'arriver à apporter un peu de sang neuf aux jeux vidéo qui a longtemps été dominé par le Japon ou les États-Unis. Et avoir peut-être un angle de vue, des nouveautés, des perspectives un peu différentes, quelque chose de vraiment nouveau.
Même si dans un premier temps, c'est un peu optimiste, en tout cas par rapport à la proposition qu'ils apportent actuellement. Mais oui, on peut peut-être...
D'ici 5 ans, par exemple, je pense, entre 5 et 10 ans, il faut qu'il y ait de la croissance sur le marché pour qu'ensuite, il y ait de plus en plus de développeurs et qu'ensuite, ça soit un business vraiment à part entière, qui soit plus vraiment une sorte de sous-traitance des studios occidentaux.
Mais moi, j'irais même, je suis un petit peu plus optimiste que vous. Il n'y a pas que forcément des modèles type mobile lootbox gacha dans les pays asiatiques qui sont très populaires là-bas, mais on a vu certains titres qui avaient l'air d'être des titres imaginés pour les consoles traditionnelles ou les machines traditionnelles. Et même si ces aspects risquent effectivement du fait de la nature des marchés en Chine et en Occident différents, ça risque de nous choquer un petit peu plus, même dès le début, on va avoir, comme tu y faisais référence, Dani, cette différence culturelle qui va nous être apportée, parce que beaucoup de gens ont découvert le Japon au sens large avec les jeux vidéo, les mangas, etc., mais en partie les jeux vidéo. Et c'est vrai que la Chine est une culture qu'on connaît sans doute moins, qui va arriver. Quand on parle du roi singe, c'est exactement ça. C'est la culture chinoise qui va nous être apportée par ces biais. Et on risque d'avoir beaucoup de... Alors, ce qui sera intéressant de noter, là, ça devient peut-être un petit peu plus politique, c'est que ça va être sévèrement contrôlé par le gouvernement chinois, toujours, puisqu'il contrôle ce qui se passe en Chine, et donc les jeux exportés auront ce filtre, mais il n'empêche, ça va apporter quelque chose sans doute d'intéressant, quoi.
Oui, mais tu vois, il y a aussi finalement tout le côté Taïwan, par exemple, il peut y avoir des studios qui peuvent apporter justement cette vision culturelle
c'est vrai,
traditionnelle,
oui.
qu'on connaît beaucoup, beaucoup moins, et avec sans ce filtre-là, justement. Bon, ensuite, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais ça m'intéresse, en tout cas, parce que finalement... Il y a du potentiel pour vraiment avoir un coup de sang frais dans le jeu vidéo.
C'est vrai. Bah écoutez, très beau premier sujet. J'approuve la porte ouverte au cauchemar de Genshin Impact. C'est une vision peut-être un petit peu pessimiste. Il y a aussi des belles choses qui vont se passer, j'imagine. Mais je me retourne du coup vers Dani pour qu'il me dise quel est, selon lui, le sujet à traiter aujourd'hui.
Alors moi, le truc que j'ai trouvé le plus bluffant, en fait, c'est la rétrocompatibilité PS4, PS5, qui est juste monumentale. Et je pense que c'est un signal très positif pour l'évolution des consoles et du jeu vidéo en général, parce que voilà, enfin déjà les deux personnes ennemies qui voulaient une PS4 et qui l'ont pas, maintenant ils peuvent se dire bon bah je vais passer directement à la PS5 et globalement pouvoir se dire oui bah toute ma ludothèque, toute ma librairie va fonctionner. Je trouve ça incroyable. Il y a une dizaine de jeux qui ne sont pas rétro-compatibles pour le moment. Alors, 4000 jeux, c'est incroyable.
Je crois que tu vas avoir d'un côté les fans de PC qui vont rire nerveusement, de l'autre côté les joueurs de Xbox qui vont s'esclaffer et se taper sur les genoux. Mais c'est vrai qu'on a eu la confirmation, on s'en doutait un petit peu, on a eu la confirmation que la rétrocompatibilité entre PlayStation 5 et les jeux PlayStation 4 sera quasiment totale, avec, comme tu le disais, une dizaine de jeux seulement qui ne seront pas compatibles. La liste risque d'évoluer, mais il semblerait qu'elle va évoluer peut-être dans le bon sens, puisque deux ou trois des développeurs de ces jeux-là ont déjà annoncé qu'ils allaient travailler sur des patchs pour voir s'ils peuvent faire en sorte que les jeux deviennent compatibles. Et de toute façon, dans l'ensemble, ce n'est pas vraiment des jeux qui vont manquer à beaucoup de monde. Je vais vous lire la liste. DWVR, Afro Samurai 2, La Revanche de Kuma, volume 1, TT Isle of Man, Ride on the Edge 2, Just Deal With It, alors jusqu'à maintenant, c'est des jeux dont j'avais jamais entendu parler, Shadow Complex Remastered un petit peu plus, Robinson The Journey, un très bon jeu de réalité virtuelle, We Sing, Hitman Go, Shadwen et Joe's Diner. Bon, voilà, dans l'ensemble, je crois qu'on peut dire que l'immense majorité des titres PS4 seront disponibles sur PS5. C'est d'autant plus intéressant que... contrairement, je crois, à ce qui se passait avec la rétrocompatibilité les générations précédentes, là, on a une console où la rétrocompatibilité, c'est vraiment une amélioration des jeux qu'on avait avant. C'est le cas sur les deux consoles next-gen. On aura, on l'espère, pour tous les jeux de la vraie 4K et du vrai 60 FPS, et peut-être même des petits bonus en plus. On sait que beaucoup de jeux sur Xbox vont avoir du HDR synthétisé pour les anciens jeux qui ne l'avaient pas implémenté, etc., etc. C'est vrai que c'est une belle confirmation, disons que Sony arrive au niveau de Microsoft avec cette confirmation, sachant qu'il y a, je pense, plus de jeux PlayStation 4 dont on se souvient que de jeux Xbox One, donc c'est encore plus enthousiasmant, en tout cas pour les fans de PlayStation. Donc c'était une belle news. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments dans cette discussion?
Moi, ça m'a un peu surpris parce que Sony avait beaucoup communiqué sur leur façon de dire bon, nous, on croit en génération, donc on veut vraiment faire passer tout le monde sur la nouvelle génération. Donc, il semblait vraiment marquer cette césure et pourtant cette rétrocompatibilité. Ils ont un peu fait, ils ont un peu refixé le truc là-dessus, je pense, à la demande populaire, un popular demand, comme on dit en anglais. Et ouais, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde. Et aussi parce que c'est vrai que la PS5, même si elle a un joli petit line-up, il va falloir attendre quand même un petit moment, histoire de commencer à avoir un catalogue intéressant. Donc c'est le bon deal. Et encore une fois, pour les gens qui n'ont pas la PS4, là, c'est encore une fois vraiment une bonne affaire, quoi.
Je vais un petit peu te contredire sur cet aspect console... vraie différence entre les consoles, parce que c'est vrai que c'est une remarque qu'on a beaucoup entendue. Entre parenthèses, le matériel sera compatible aussi. La PSVR va fonctionner sur PS5. Il faudra un adaptateur pour la caméra, parce que la VR ne peut pas utiliser la caméra PS5. Il faut utiliser la caméra PS4 avec un adaptateur. Donc c'est un petit peu relou. Les manettes sont utilisables sur les jeux PS4. Visiblement, la manette PS5 marche pas parfaitement bien sur les jeux PS4. C'est un petit peu bizarre. Je pense qu'il y a une sorte d'anguille qui se cache sous la roche là. Il y a un truc bizarre. On sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais sur la question de... Ah voilà, c'est Sony qui revient en arrière sur la question des générations. Je suis pas du tout d'accord. Enfin, pas du tout. Clairement, on a un line-up des nouvelles consoles, que ce soit pour la PS5 ou pour la Xbox Series XS, qui est, j'ai l'impression, un peu plus faible que ce qu'on avait connu pour les générations précédentes. Mais la question de la césure entre les générations, c'est pas forcément à la sortie. S'ils nous sortaient des jeux qui tirait parti des nouveautés incroyables de la nouvelle génération juste à la sortie de la console, on le verrait plus. On pouvait l'attendre, mais clairement, à part Ratchet & Clank, il semblerait que ça soit assez limité. Mais le principe du matériel qui offre des possibilités différentes reste valide, parce que dans 2 ans, 3 ans, quand la question de la rétrocompatibilité sera moins importante, ou en tout cas que les jeux de l'ancienne génération seront moins le cœur de ce qu'on va faire sur la nouvelle, eh ben le matériel qui offre des capacités et des possibilités différentes, possiblement plus intéressantes, restera. La Xbox est dans la continuité avec une amélioration de ce qui se fait déjà. Et si on parle spécifiquement de la PlayStation 5, ce fameux disque dur SSD qui n'est pas juste ultra rapide, mais ultra méga rapide au point qu'il influence le design des jeux potentiellement si on les pense pour ce matériel, eh ben il restera aussi. Donc, et l'audio 3D potentiellement, si c'est intéressant. Je ne sais pas si le méga ultra SSD de la PS5 influencera vraiment le design des jeux, mais c'est ça la promesse. Et ça ne va pas disparaître. Le matériel, la console qui offre des possibilités différentes est quand même là. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais...
Non, mais en fait, je suis d'accord avec toi parce que je pensais plus finalement en termes de catalogue, c'est-à-dire vraiment, tu vois, de génération PS4 et maintenant on passe à génération PS5. Donc, les anciens jeux restent des anciens jeux. C'était plutôt à ça que je pensais. Mmh. Alors qu'effectivement, sur la techno en elle-même, je vois ce que tu veux dire et je te rejoins. Oui.
Ouais. C'est vrai que le catalogue, on est clairement... Alors, c'est bien qu'il y ait une rétrocompatibilité. Mais c'est clair qu'on n'est pas un catalogue qui est hyper, hyper riche, spécifiquement pour la nouvelle génération. Ceci dit, on en parlera peut-être tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Il y a des choses qui font assez plaisir au niveau visuel dans les derniers trailers qu'on a vus. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Parlons peut-être rapidement de Microsoft, du coup, et des news pour la Xbox. Phil Spencer a confirmé qu'il voulait faire tourner le xCloud, donc le streaming de Game Pass, sur iOS et iPadOS, enfin, en gros, sur les iPhones et les iPads. Et il a, on s'en doutait parce qu'on a vu que Luna, le service de streaming de Amazon, utilisait ce biais pour tourner sur les appareils d'Apple. Et donc, on imaginait bien que Stadia et Microsoft allaient s'atteler à la tâche. Il a confirmé que ça serait le cas. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde. D'ailleurs, il y a les communautés Reddit qui sont attelées à la tâche également et qui réussissent à faire tourner Stadia et GeForce Now sur iOS en passant par des navigateurs spéciaux qui s'annoncent comme d'autres user agents, etc. Bref, il est possible de bidouiller pour utiliser Stadia et GeForce Now sur iOS, donc c'est déjà en route. Un autre truc peut-être un petit peu moins enthousiasmant pour la Xbox, il y a certains développeurs, dont David Cage, qui a exprimé des inquiétudes sur la dualité entre série S et série X en disant « Généralement, quand les développeurs ont accès à deux puissances de machines, ils vont développer pour la moins puissante pour pas avoir à s'emmerder à développer deux versions. » Parce qu'effectivement, si tu développes pour la version la moins puissante, tu peux toujours la faire tourner sur la plus puissante. Mais si tu développes tout pour la plus puissante, c'est compliqué. Il faut plus de développement et d'adaptation pour faire rentrer ça dans la moins puissante. Alors évidemment, David Cage, il connaît le développement, c'est pas forcément un avis qu'on peut balayer d'un revers de la main. Par contre, j'ai l'impression qu'il oublie un petit peu que tout le reste de l'industrie est aussi au niveau de la Xbox Series X et pas au niveau de la Xbox Series S. On a quand même la PlayStation 5 et les PC qui sont en train d'arriver à ces niveaux et à ces types de développement. Donc les développeurs, ils ne vont pas développer pour la Xbox Series S et ensuite rien avoir à proposer de vraiment intéressant qui tire parti de tout le reste de l'industrie. Donc je pense que c'est à mettre quand même en perspective qui dit, mais c'était intéressant. Et puis,
ça témoigne du fait que la série X, elle est un peu dans un truc ambivalent et qu'elle va être quand même compliquée à vendre parce que voilà, si elle fait pas aussi bien tourner que les autres, s'il y a des jeux qui tournent pas bien dessus, enfin, c'est un modèle que je trouve à la fois super intéressant en termes d'accessibilité et de projet, tu vois, c'est-à-dire que c'est une console qui est, c'est ta petite console qui est pas trop chère et voilà, tu prends le Game Pass dessus et c'est top. Mais par contre, voilà, est-ce qu'elle va réussir à s'insérer dans le marché correctement ? Je suis assez curieux de voir ça.
Pour moi, tout va dépendre, comme on en discutait déjà par le passé, tout va dépendre de si elle peut vraiment faire tourner les jeux de manière assez convaincante en 1080p. Mmh. C'est ça la promesse. Hein. Le 1080p sur la console, si ça tourne vraiment bien et que tu es presque au niveau de la série X en 4K... Et à vrai dire, vous savez, je dis ça, mais même si elle est un peu plus moche... elle est vraiment à un tarif intéressant, donc avec le Game Pass, je pense qu'elle peut se trouver une niche.
Donc, surtout que le Game Pass, c'est beaucoup d'anciens jeux aussi, donc pas des jeux de génération, en tout cas pendant un moment, je crois, à part les nouveaux titres de Microsoft. Donc c'est vrai que même là, ouais, se prendre ce truc-là avec le Game Pass, tu peux déjà t'occuper super longtemps. Ouais.
Il faut voir aussi que l'écart de prix en fait entre les deux consoles est tellement grand. À mon avis, le gros de la demande va quand même se reporter sur le modèle entrée de gamme, qui est quand même beaucoup, beaucoup moins cher. Et la valeur et le rapport qualité-prix qu'on va en tirer sera probablement extrêmement intéressant. Donc moi, j'ai tendance à penser un peu comme David Cage là-dessus. Je me dis que donc il y aura peut-être des petits plus intéressants sur le modèle supérieur, mais est-ce que ça justifiera l'écart de prix ? Est-ce que ça convaincra les gens à payer 100€ de plus selon les promos pour avoir le meilleur modèle, je suis pas sûr.
En fait, je crois qu'on réfléchit souvent à ça en tant que core gamer qui attendons la next gen et on est là, on va le plus gros truc.
Alors, c'est pas ce que vise la console, tu sais.
C'est ça.
Exactement.
Et la console, elle va viser Noël chez Leclerc. Et tu vois, Next Gen à 300€, les vrais joueurs de jeux vidéo, quand on parle souvent des vrais joueurs et des pas vrais joueurs, bah les vrais en fait.
Les enfants.
C'est les vrais joueurs de jeux vidéo, c'est des gens qui achètent des consoles quand les prix baissent, quoi. Très peu de gens, une petite partie du parc installé au bout des 10 ans, paye la console à son lancement 500€. La plupart des gens la payent quand le prix baisse. Et en fait, ce que fait Microsoft, c'est qu'ils se mettent déjà, dès l'entrée en jeu, à porter du public qui attend généralement 2-3 ans. Donc, il est possible.
Et voilà.
Que...
Après, est-ce que le public va justement, est-ce que, s'il est un peu renseigné, va se dire, du coup, je vais quand même attendre 2-3 ans et je prendrai la grosse quand elle baissera. Encore une fois, On ne sait pas du tout en fait quelle place va prendre la Xbox Series S sur l'ensemble du marché. Et c'est vrai que si la part elle est ridicule, bah, elle sera un peu abandonnée. Si la part elle est énorme, effectivement, il y aura à se poser les questions que David Cash se pose.
Je crois que de toute façon, dans nos contrées, aux États-Unis, elle risque de prendre une certaine place. Dans nos contrées, je crois qu'il y a peu de gens qui vont se précipiter. Ouais. Ouais. On est très très PlayStation quand même.
En fin de compte aussi, ça dépend du taux de pénétration des télé 4K et il y en a pas, c'est pas encore ultra répandu. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre une X sans avoir une télé 4K?
Ouais, non, mais tout à fait. C'est pour ça que je parlais.
Je me poserais la question si c'était pas mon cas.
Bon, il y a d'autres news du côté de Microsoft, notamment un accord hyper intéressant avec GameStop, j'ai failli dire GameSpot, avec GameStop, donc qui inclut en France Micromania, et ils ont un accord qui met en avant les consoles de Microsoft chez eux, et là c'est vraiment un truc, je vais dire pas cataclysmique, mais un événement hyper important pour l'industrie du jeu vidéo. Micromania va toucher une commission sur les ventes de jeux en numérique qui seront vendus sur la console qu'ils ont vendue. Donc, il y aura un système d'identification, genre, je sais pas, ils ont telle autre console et on va savoir que ces consoles ont été vendues par Micromania. Et du coup, toutes les ventes numériques, peut-être qu'il y aura une durée, hein, sur 1, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, mais toutes les ventes numériques qui seront faites sur cette console donneront lieu à une commission à Micromania. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir, pour la première fois de leur vie, ou presque, une incitation à vendre une console qui sera entièrement numérique, et même à vendre une console tout court, parce qu'avant, ils se faisaient de l'argent que sur les jeux.
Ouais. Une énorme incitation, parce que finalement...
Alors, on ne connaît pas les chiffres,
Ah, mais même sans connaître les chiffres, finalement, bah, t'achetais ta console avant, tu pouvais acheter ensuite tes disques ou en démat, un peu n'importe où. Tandis que là, finalement, une fois que t'es coincé sur le store, Micromania va récupérer de l'argent sans vente de jeux. C'est quand même fort. Et à mon avis, c'est un très bon moyen aussi pour Microsoft pour accélérer la transition vers le tout digital et avoir un store de plus en plus pesant et limiter ensuite la part du physique, j'imagine, pour la génération d'après.
Ouais, je pense que c'est vraiment un gros, gros, gros morceau, ça. Et c'est un truc même qui peut, en fonction des types de partenariats, etc., en particulier aux États-Unis, GameStop va tellement mal que là, pour le coup, ça peut... il reste une force de frappe importante parce que c'est du retail et les commerçants, bah, on a beaucoup de gens qui vont encore dans les boutiques pour regarder, pour choisir, etc. Et là, je peux t'assurer que Micromania et GameStop... ils vont mettre en avant les consoles de Microsoft, mais comme jamais. Et peut-être même, ça répond un peu à notre interrogation tout à l'heure, peut-être même les séries S encore plus que les séries X, t'es obligé d'acheter chez Microsoft, quoi. Parce qu'après...
Et surtout, est-ce qu'ils vont avoir justement, donc dans les versions avec disque, donc dans la X, est-ce qu'ils vont avoir accès à ces subventions sur les jeux vendus?
Alors, les jeux vendus en numérique, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que si toi t'achètes une série X, tu l'achètes chez Micromania, et puis après, tu vas acheter tes jeux chez Leclerc à 20 euros de moins, ou 30 euros de moins.
Chez Amazon,
ou ce que c'est. Alors que s'ils t'ont vendu une série S, eh ben, ils sont sûrs de se faire de l'argent dessus.
C'est ça, c'est ça.
Donc,
sur les 5 prochaines années. C'est un super plan.
Ouais, ouais. Et dernier petit mot pour dire que les retours de jeux next-gen sur série X, justement, bah les graphismes, les jeux next-gen, c'est des grosses guillemets, hein, parce qu'on parle notamment de Yakuza 6, qui est un jeu qui a été conçu sur la gen précédente. Mais donc, les impressions, et je crois que ça se retrouvera sur beaucoup de jeux à cette sortie de next-gen, les impressions essentielles qu'on a eues, c'est « bon, ok, les jeux, ils sont un peu plus beaux, c'est sympa, mais c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est les temps de chargement ». Et les temps de chargement réduits, ça change complètement l'approche qu'ont les gens du jeu. C'est pas juste que t'as plus le temps de sortir ton portable pour regarder à quel point t'es énervé en regardant Twitter entre deux séquences. C'est aussi que tu dis, c'est comme un die and retry où tu dis, allez, j'en fais une autre parce que ça se recharge tout de suite. Mais pour les gros jeux, quoi. Il y a quelqu'un qui parlait de ça sur Dirt 5. Tu lances la course immédiatement. Donc tu dis, allez, j'en fais encore une. C'est une approche qui est différente du jeu. J'ai trouvé ça assez intéressant. Allez, dernier petit mot avant de passer à notre seconde partie. Dany, tu es un grand spécialiste du matériel. Ton travail, c'est de construire toi-même des PC avec tes petites mains tous les jours, ou presque. Petit disclaimer quand même, tu travailles chez Dell, avec un poste extrêmement important de maître du monde européen. Tu vas nous dire Alors, bon, j'ai suivi un petit peu les news sur les nouveaux processeurs de AMD, les Ryzen série 5000 qui font suite aux séries 3000 parce que les 4000 ont été que chez les OEM. Ce que j'ai compris en gros, c'est que c'est des processeurs qui sont vachement plus mieux que ceux d'avant, qui déjà étaient impressionnants, mais là, le truc à retenir, c'est que jusqu'à maintenant, les processeurs Intel étaient les meilleurs pour le jeu vidéo, mais là, d'après ce qu'ils annoncent, il est possible que pour le jeu vidéo également, comme pour d'autres tâches, le rapport qualité-prix devienne plus intéressant chez AMD. Est-ce que c'est ça ce qu'il fallait retenir ?
Ouais, et enfin en partie, et je pense qu'effectivement, donc ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, il y a le directeur, le vice-président en charge des produits Alienware et gaming chez Dell, est parti chez AMD pour justement driver leur développement produit. Il est devenu leur chief gaming officer, et donc à partir de là, c'est les premiers d'une série de produits. Qui, à mon avis, vont être de plus en plus optimisés pour le gaming parce que ça permet ensuite à AMD de se positionner en tant que non seulement grand concurrent face à Intel et à accroître leur part de marché, mais aussi ça donne ce rayonnement que tu n'aurais pas forcément en parlant de produits très entrée de gamme, même si ça génère une grande vélocité pour la marque. Là, le fait de se positionner en disant voilà, sur le gaming, on a des croissance énorme en termes de performance par rapport à la génération d'avant, ça permet aussi justement d'augmenter cette visibilité, ce rayonnement premium que pourrait avoir AMD en termes de puissance et manquer un peu. Il y avait autre chose aussi que j'avais lu dans certains articles où apparemment c'est l'interopérabilité en fait entre les futures cartes graphiques AMD et les processeurs Ryzen 5000 va être améliorée, donc on aura des meilleures performances en mariant les deux que en prenant un processeur AMD et une carte graphique Nvidia ou dans l'autre sens, par exemple.
Ce qui veut dire qu'il faut peut-être encore attendre avant de prendre une RTX 3080 et voir ce qu'ils vont proposer, parce qu'il y a la conférence le 28 octobre où ils vont annoncer leur nouvelle carte graphique. Mais traditionnellement, là, pour le coup, contrairement aux processeurs où ils ont pris le devant sur Intel, en tout cas en rapport qualité-prix, j'ai l'impression que traditionnellement, les Radeon sont moins performantes que les cartes de Nvidia, n'est-ce pas ?
Ça... C'est des bons rapports qualité-prix en général. Maintenant,
mais peut-être
effectivement,
que la
couronne de la performance absolue, en général, revient à Nvidia. Maintenant, ce genre de choses aussi, c'est très, très discutable parce que ça va dépendre de la qualité des drivers, de l'optimisation de ceux-ci, etc. Donc, ce n'est pas uniquement une question de performance brute et de benchmark, mais aussi de finalement, à quel jeu est-ce qu'on joue et dans quel type de circonstances est-ce qu'on veut y jouer. Mais effectivement, moi, à mon avis, j'attendrai fin octobre et voir aussi peut-être les premiers benchmarks et reviews des différents produits, parce que en tout cas ce qui est annoncé c'est que ça va être un gros événement et justement il y avait des tweets qui circulaient là-dessus où ce sera pas un paper launch apparemment le lancement de ces cartes graphiques, et il y en aura donc
elles seraient disponibles tout de suite
en grande
quoi.
Disponibilité voilà, donc ça peut jouer aussi, parce que finalement je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû être frustrés par la disponibilité limitée des cartes graphiques, des 3080 notamment, qui ont l'air d'être un rapport performance-prix monumental. Et effectivement, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'attendre encore pour en avoir une, ou prendre la carte AMD quand elle sera annoncée fin octobre.
Bon, Hugo, est-ce que toi, tu es un vrai joueur hardcore pour de vrai,
contrairement faux,
assez pouilleux sur console. T'es un pouilleux ?
Ah oui, totalement, mais je le revendique.
Moi, j'ai encore ma carte de PC Master Race, même si j'ai toutes les consoles du marché, parce que
je joue aussi sur PC, disons que dans mon ADN, déjà, moi, j'ai vraiment grandi avec les consoles, et que je n'investis pas énormément non plus dans mon... c'est pas ce qui me drive, c'est pas les performances comme ça, mais je comprends qu'on aime bien, mais c'est pas ça qui marche.
C'est la folie avoir la plus grosse carte graphique. Je pourrais faire du 500 FPS si je jouais sur PC.
En fait, Danny, dans ce débat tu peux arrêter ta phrase à, c'est la folie avoir la plus grosse. C'est juste ça.
Voilà. Si vous voulez, en ce moment, moi, je joue à ICO sur, sur un émulateur, des choses comme ça. Donc voilà, si vous voulez, j'ai pas besoin de trucs très gourmands.
Écoutez, je dis tout ça, mais comme j'en parle de temps en temps, j'ai très hâte de que tout ça se tasse au niveau des nouvelles cartes graphiques, parce que je vais le redire, je me suis déjà fait réclamer ma carte de PC Master Race, parce que mon PC, sur lequel je fais tout, mon streaming, mon montage, même les montages vidéo pour YouTube, etc., je l'ai fait sur mon PC qui est, tenez-vous bien, un PC d'il y a 6 ans. Avec une GTX 970. Allez, c'est ça, c'est, le c'est le, l'inverse de Nier Automata tout à l'heure. Tout à coup, là, c'est toi qui ne veux plus rester. c'est, ouais. Donc, j'ai hâte. Moi, il va falloir que je... Elle est très bien, hein, la 970. Comme on le dit dans la chatroom, une 970, ça tourne très, très bien. Mais c'est le moment d'upgrader, hein, quand même. On y arrive.
C'est une carte exceptionnelle, mais il faudra aussi peut-être que tu changes ton processeur.
Ah, mais tout.
Qui doit dater et qui va être une sorte de goulet d'étranglement, quelle que soit la carte graphique que tu prends. Ouais.
Je vais tout changer, là. C'est un nouveau PC qu'il va me falloir. Et puis, c'est pour le boulot. Donc, ça ne va pas être un PC à 500 euros, tu vois.
Non, mais moi aussi, en fin d'année, je vais changer aussi parce que le mien a 5 ans, tu vois. Donc, voilà.
Ah, bah
aussi,
oui, voilà, oui.
Mais donc, oui, il faut que je le renouvelle. Moi aussi, je vais changer. Le mien, il a 6 mois. Donc,
voilà. Pas la même, effectivement. Pas le même comportement d'achat.
Message à tous les auditeurs qui voudraient acheter des PC, si vous pouvez attendre que j'ai acheté le mien pour qu'il y ait encore des disponibilités, ça serait super sympa. Juste faites ça début janvier, je dirais. Comme ça, ça serait... Merci, très gentil. Bon, bah écoutez, donc à voir le couple processeur et carte graphique AMD. On aura la réponse à la fin du mois, dans 2 semaines à peine. Et puis, ça nous amène à nos autres sujets. On est déjà à 40 minutes d'émission, donc on va avancer. Mais avant d'avancer quand même, je voudrais vous dire... à tous qu'il y a des gens dans ma vie que j'aime encore plus que d'autres. Moi, j'aime tout le monde, hein, je suis gentil. Mais
arrête de me flatter, t'es pas obligé de le dire encore. Hein.
Alors, en plus de Dany, il y a des gens comme les Patriotes qui sont vraiment mes meilleurs amis de toute la vie. Et c'est ceux qui soutiennent l'émission et qui vont sur patreon.com/rdvjeux pour soutenir le rendez-vous jeu. Si l'émission existe et si on peut faire tout ce qu'on fait et vous proposer ces résumés super sympathiques et passer de bons moments avec nous toutes les semaines, eh ben c'est grâce à ceux qui soutiennent l'émission, qui font comme à l'époque où il y avait des petits magazines qui vont jusqu'au kiosque et qui vont payer quelques euros pour le truc de la semaine qui leur plaît particulièrement. Si vous faites partie des gens qui apprécient l'émission, j'aimerais vous proposer d'aller sur patreon.com/rdvjeux et juste de regarder ce qu'on vous y propose. Il y a des avantages super sympas comme le fait d'avoir l'émission sans pub, même sans cette partie promo au milieu, vous l'aurez pas. Si vous utilisez le flux privé des Patriotes, vous aurez accès à l'after show où on se marre bien généralement. Il y a d'autres niveau auquel vous avez accès au Discord privé, en plus du Discord public qui est accessible à tout le monde. Donc, je pense que ça pourrait vous plaire et dans tous les cas, la plus grande partie de cette démarche, c'est de soutenir une émission qu'on apprécie, une création qu'on apprécie. Donc, si vous êtes dans ce cas, je vous remercie très chaleureusement d'aller regarder sur patreon.com/rdvjeux et je fais une énorme bise à ceux qui le font déjà.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon alors, j'ai plusieurs news que je veux couvrir également. Des trucs hyper enthousiasmants, mais vraiment, il y a deux choses qui m'ont fait sauter de ma chaise. Et puis, il y a une chose où je me suis pris la tête entre les mains et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais parler d'Amazon. Juste avant, je vais mentionner qu'à la fin du mois, il y aura, c'est le 20, même pas dans une semaine, il y aura Stadia qui va annoncer des trucs. Ils ont dit ça va être super cool. Donc, ça a fait remonter mon espoir. En fait, c'est vraiment les montagnes russes avec Stadia. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Parfois, je descends. C'est une descente vers la mort et je me dis, mais mon Dieu, c'est comment est-ce qu'on peut rater les choses autant ? Puis parfois, je me dis, j'ai l'espoir qui renaît. Je me dis, mais ils ont enfin compris qu'il faut faire des trucs de telle ou telle manière. On verra sans doute d'ici quelques jours. Mais du côté d'Amazon, autant je vantais les qualités annoncées de leur service de streaming, c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, avec Luna, autant ce qu'ils font avec les jeux, c'est incompréhensible. Vous vous souvenez de Crucible, qui était un jeu, une sorte de MOBA hero shooter un petit peu différent, qui est sorti et qui s'est tellement planté qu'ils se sont dit « Ok, on revient, on remet le chat dans le sac pour faire des franglicismes. » Ils ont remis la sauce dans le tube, le dentifrice dans le tube. on y retourne. Et on va retravailler sur le jeu. Et là, un mois après, ils ont dit, même pas quelques mois après, ils ont dit, ben non, en fait, on l'annule complètement, c'est terminé. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça. C'est la deuxième fois, pas exactement sous cette forme, mais ils avaient déjà, c'était comment, Breakaway, le jeu qui était sorti il y a un an ou quelque chose comme ça, qui avait l'air sympa, mais clairement qui avait pas. Enfin, moi, j'y avais joué un peu, c'était bon, voilà, un jeu marrant. Mais comment est-ce que Amazon, qui est une boîte aussi puissante, qui a tellement de moyens, qui a engagé, j'imagine, des gens qui sont compétents, comment ils font pour se planter à ce point-là deux fois de suite ? Je le constate, mais je comprends pas comment ils réussissent à faire de telles erreurs, quoi. Ou peut-être que c'est reculé pour mieux sauter. Du coup, je suis très inquiet pour New World, leur MMO sur lequel ils travaillent depuis des années. Mais je sais pas, moi je suis très perplexe. Je sais pas si ça vous inspire quelque chose ou si vous voulez parler de jeux sympas plutôt, mais moi ça m'a surpris.
Ouais, bon, moi j'étais un peu surpris aussi. Maintenant, je pense qu'aussi Amazon, c'est pas forcément une société dont c'est le cœur de business. Donc à mon avis, ils doivent apprendre à la volée et essayer de trouver quel est l'équilibre dont ils ont besoin pour arriver à se positionner et à faire quelque chose de. Va résonner dans le marché, mais je préfère qu'ils annulent un produit maintenant en disant voilà, bah la qualité pas au rendez-vous, on n'y croit pas, ça marche pas, plutôt que de lancer un produit qui résonnera pas et qui tuera de toute façon la marque Amazon dans le gaming d'entrée de jeu.
Ça s'invente pas de faire du jeu vidéo, c'est-à-dire que même si on recrute plein de talents, ces talents ils ont besoin de passer du temps ensemble, de gagner de l'expérience ensemble pour pouvoir créer un produit qui est au niveau de tous les autres studios qui sont là depuis 20-30 ans. Enfin, si on veut aller marcher sur les plates-bandes de Blizzard, bon, même si Blizzard a des petits problèmes en ce moment, il faut quand même avoir les reins très très solides. Et je pense que c'est voilà, ça met du temps en fait. Et c'est pas l'argent ne fait beaucoup de choses, mais voilà, ça, elle peut peut-être pas l'acheter aussi c'est rapidement que ça.
C'est intéressant parce que c'est un truc que je dis depuis longtemps en fait. Il y a beaucoup de journalistes et de spécialistes de la tech qui pensent qu'ils comprennent le jeu vidéo, en fait. Parce que les deux domaines, les deux industries sont cousines, finalement. Mmh. C'est relativement proche. Mais en réalité, il y a des grosses différences aussi. Et les jugements qu'on peut porter sur le jeu vidéo en comprenant la tech sont généralement erronés. Je m'en suis vraiment rendu compte quand les spécialistes de la tech pensaient qu'il n'y avait plus de place pour une console portable et que du coup, ils condamnaient Nintendo à mort en disant « Ah, ça suffit, les consoles de Nintendo !» au moment où tout allait mal, en plus, avec la Wii U, en disant « Ah, faudrait qu'ils se mettent à faire juste du logiciel et pas de la console. » Et je pense que beaucoup de joueurs disaient « Mais on a la place pour une console portable. Alors peut-être qu'il faudrait qu'elle soit hybride, machin, mais non, il y a la place pour un acteur dans ce domaine. Les consoles, pareil, on pensait, allez, c'est fini, tout le monde va passer sur les portables, etc. Et bref, il y a peut-être que c'est Amazon qui s'est dit, c'est bon, c'est pas dur, on sait faire des serveurs, ça doit être que... Et donc, il doit y avoir des gens au-dessus qui doivent, je ne sais pas, prendre les mauvaises décisions, prendre les mauvaises directions. Mais clairement, là, c'est autant ils réussissent très, très bien avec, dans le domaine du retail avec Amazon, dans le jeu vidéo et puis évidemment avec Twitch, dans le streaming, autant là, c'est un... Pour continuer dans les anglicismes, c'est un œuf sur la figure, quoi. Ça fait ridicule. Ouais, une fois, ça passe.
Relativise mais... aussi, tu vois, pas tout, parce que...
Pas oui, tout. Donc c'est sûr. Ne dis pas, ne montre Patrick, pas au monde notre intimité, Dany.
mais tu vois, regarde, on parlait de Blizzard il y a deux minutes. Même Blizzard a eu des jeux avortés par le passé, et finalement, ça arrive à toutes les compagnies. Ouais. C'est juste que bon, ils en ont enchaîné deux. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais finalement, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est ouais. arrivé, je crois. Des sociétés que je connais. Hein. Donc, ouais.
Bah, peut-être que la différence, c'est qu'au lieu de s'arrêter avant de le sortir, il y a quelqu'un qui a dit « Non, mais vous rigolez, ouais, vous travaillez dessus depuis un an et demi, faut le sortir, là. On y va. Faut sortir quelque chose. » Et là, ils apprennent qu'en fait, bah non, il est pourri, tu le sors, bah, il aurait mieux valu ne pas le sortir parce que
c'est justement
temps,
ça que je me demande, en fait. C'est, est-ce que le studio s'est dit « Oh, il a l'air bien, on va faire la bêta, on va voir comment le marché reçoit. » Ou alors, est-ce qu'ils se sont dit, bon, c'est pas terrible, mais on va quand même essayer pour voir s'il est mieux reçu que ce qu'on pense. Ouais. Et ça, c'est effectivement ces deux perspectives différentes qui peuvent changer la donne, à mon avis, sur le marché.
C'est clair. Bon, écoutez, on va maintenant parler de jeux vidéo, des vrais, pas des consoles, pas de l'industrie, pas des processeurs,
pas de téléphone
des jeux.
Portable, j'espère.
Certainement pas, monsieur. Nous sommes des vrais gamers ici. On ne joue pas sur téléphone portable. Assassin's Creed Valhalla, on a eu une nouvelle vidéo de présentation. Ils ont appelé ça un deep dive. Moi, ça m'a hypé. Alors, problème de Nvidia, je suis sûr qu'il y aura certains pour les rappeler. De Nvidia. Problème de Ubisoft, je suis sûr qu'il y aura certains pour les rappeler. Quelqu'un pour les rappeler quelque part. Mais au-delà de ça... Bon sang, mais alors je suis hyper méga fan de Odyssey, de Assassin's Creed Odyssey, donc c'est déjà pile ma cam, et bon sang que c'est beau, mais j'ai pas l'impression que c'est genre méga next-gen, parce que déjà Odyssey était super beau, et là c'est genre une étape au-dessus, et c'est clairement, j'ai l'impression, un truc qu'on pourrait pas faire sur la génération actuelle, mais c'est pas genre photoréaliste, mais c'est tellement beau, je le montre en live là sur Twitch, pour ceux qui l'ont pas vu encore, mais bon sang, ça me... Enfin, je sais pas, moi, ça m'a fait des petites... ça m'a rendu tout chose. Et en plus, il parle de tous les systèmes qui s'additionnent les uns aux autres. Il y avait déjà des systèmes sur des systèmes sur des systèmes dans Odyssey. Et là, il y a le campement de base qu'on peut développer, qui va donner accès à d'autres trucs. Enfin, c'est... Ah, j'ai très, très hâte, on va dire. Surtout que c'est l'un des seuls jeux next-gen. Je me demande d'ailleurs si c'est pas... s'il n'y a pas le personnage qu'on voit là, je me demande si c'est pas... un personnage qu'on a déjà vu, je ne vais pas spoiler, mais qu'on a déjà vu dans d'autres jeux. Bref, pardon. Ça vous fait quelque chose, Assassin's Creed Valhalla, et ce trailer qui est très, très beau ?
Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé Odyssey. Je ne l'ai pas terminé, mais j'ai trouvé fantastique.
Un peu long.
L'univers me parle beaucoup aussi, donc j'ai hâte de l'essayer. Maintenant, le trailer, je le trouve bien, hein, mais ça ne m'a pas forcément donné plus envie d'y jouer que... il y a 3 mois, tu vois. Donc, j'y jouerai, c'est sûr. Je serai très content d'y jouer. Il est joli. J'espère qu'il sera aussi fun qu'Odyssée. Et ce sera rien de plus à demander. C'était fantastique. Ouais.
Bon, tu es cynique et rabat-joie, comme toujours. Hugo, toi qui as maintenant un amour immodéré pour les open world classiques à la Ubisoft.
Bien sûr.
que tu as déclaré récemment en podcast. Bon, j'imagine que ça te parle un peu moins quand même à toi.
En fait, moi, vraiment, Ubisoft, au début des années 2010, j'ai joué vraiment à beaucoup de leurs jeux et je les aimais beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans une phase où ça m'intéresse plus trop. Et je suis content qu'ils continuent à faire des trucs. Je suis content qu'ils aient aussi essayé de revoir la formule Assassin's Creed. J'ai l'impression qu'elle s'insère mieux dans ce qui se fait actuellement. Mais c'est vrai que je préfère prendre du temps pour d'autres trucs, surtout que je sais que c'est des jeux qui prennent 1500 ans. Et contrairement à ce que tu avais annoncé au début, en fait, non, j'ai pas tant de temps pour jouer que ça, parce que je dois aussi m'occuper de ma famille et tout. Et les jeux, les gouffres comme ça de 50 heures, je préfère les laisser de côté pour d'autres jeux.
Oui, je peux comprendre. Bon, bah, en tout cas, moi qui suis déjà client, je crois que je suis... ça me parle forcément beaucoup tout de suite. Mais je suis sûr que d'autres choses vous parleront, comme par exemple les nouvelles images de Spider-Man qui nous ont été livrées par, oula, je vais virer le son, par Game Informer, et notamment, alors, comment dire, moi j'ai trouvé qu'au contraire, Spider-Man, Miles Morales, ils auraient dû arrêter après la démo qu'on avait vue il y a quelques semaines au PlayStation Showcase, parce que là, tout à coup, il a l'air juste... bon, c'est juste Spider-Man en plus beau, quoi. Je trouve que c'est un petit peu moins convaincant quand on voit des scènes de gameplay. Mais le truc qui a fait plaisir à pas mal de monde sur Internet, c'est qu'on va pouvoir sauver le chat qui est, je crois, qui s'appelle Spider-Man. Je ne sais pas s'il est dans les comics, je n'ai peut-être pas lu jusque-là Spider-Man Miles Morales. Mais on peut sauver le chat d'un ami de Spider-Man et puis ensuite l'utiliser dans dans certains de nos coups spéciaux. Et Spider-Cat va faire partie de nos coups spéciaux pour combattre le mal et s'allier à nous. C'est merveilleux, non? Regardez ça dans les images. On a le petit masque de Spider-Man sur le chat qui est dans le sac à dos. Et quand on fait une spéciale, le chat sort du sac à dos pour aller griffer l'ennemi qu'on a attaqué. C'est merveilleux le jeu vidéo quand même, non?
Ah bah écoute...
Ah bah voilà, là ça réagit, merci.
Ça réagit, mais important. Moi, autant tu vois la Miles Morales...
ah, ça suffit,
une version 1.2, 1.2 de Spider-Man, hein. Enfin, ça m'excite pas du tout. Mais par contre, avoir Spider-Cat, je peux dire que j'aurais jusque-là et que j'essaierais Spider-Cat. Pour moi, c'est clairement la meilleure nouvelle, en fait, qu'il y a eu sur ce jeu.
De Spider-Man, très bien.
Ouais, je trouve que c'est les studios qui ont compris comment générer vraiment de l'engagement sur Internet et de créer comme ça des trucs comme ça. Et ça me fait penser, vous savez, au compte Twitter Can You Pet the Dog dans le jeu Can You Pet sur Twitter où voilà, est-ce qu'on peut caresser l'animal dans le jeu? Et c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, il y a des studios qui connaissent ce compte-là et qui implémentent cette feature-là de pouvoir caresser la bestiole pour pouvoir paraître dessus. Enfin, c'est une réalité. Ouais. Et ça, je trouve ça assez fou que, voilà, comment les réseaux sociaux et la culture Internet puissent aussi influencer maintenant la création. Parce que ça, c'est vraiment, c'est un truc pour faire le buzz sur Twitter. C'est évident, tu vois.
C'est dans l'air du temps, hein. C'est
voilà,
clair.
Totalement.
Ouais. C'est marrant parce que quand j'ai vu cette news, je me suis précipité sur le Discord. pour voir la réaction d'une personne en particulier qui se reconnaîtra. Et ça n'a pas manqué, j'ai bien vu sa réaction, c'était Gauthier direct. C'était très très drôle, effectivement. C'est quand même très très drôle en plus de tout ça. Bon,
et j'espère qu'on pourra en faire une machine à tuer sur tout ce chat.
Ah bien sûr, c'est ça l'important. Alors... quelques news en pagaille pour terminer l'émission. Shadowlands, la prochaine extension de World of Warcraft, qui n'a toujours pas de date suite à son report, a tout de même eu le patch de pré-extension qui a été publié. On a Baldur's Gate 3. Tiens, du coup, je me retourne vers Dany à la limite pour ces deux news. Le pré-extension, c'est pas complètement fou, mais Baldur's Gate, j'ai encore eu personne dans l'émission qui l'a acheté en pré-accès et qu'il a testé. Toi, tu es un grand fan de ce genre de jeu. Est-ce que tu as sauté le pas ou toujours pas?
Non. Et pourquoi, en fait? C'est parce que j'en ai marre de payer pour être bêta-testeur sur un jeu. Donc, j'y jouerai certainement quand il sortira, mais j'ai pas envie d'être bêta-testeur payant.
Ouais. Bon, là, au moins, c'est clair. Hein. Ils te disent, si vous voulez...
Oui, ouais, bien sûr, c'est ça.
On a l'impression que t'as l'impression que c'est malhonnête. C'est pas malhonnête pour le coup.
Non, c'est pas malhonnête. Non, du tout.
C'est juste que tu veux
c'est
pas
clair,
le faire.
C'est clairement. Voilà, ça m'intéresse pas et je préfère jouer au jeu quand il sera fini à 100%.
D'accord. Bon, écoute, la quête, à moins que Hugo ne l'ait acheté, la
non.
quête pour
non, non,
de
non,
quelqu'un
non.
qui a joué à. C'est incroyable qu'on puisse pas avoir quelqu'un qui a joué à Baldur's Gate dans cette émission, bon sang.
On n'a pas le temps, Patrick.
On n'a pas le temps de jouer à tout, c'est vrai. Quoi d'autre? Mais ça, je suis émerveillé par cette annonce. Un nouveau pack de personnages pour Mortal Kombat 11. Un nouveau pack de personnages qui inclut différents personnages du passé du jeu, mais aussi essayez d'imaginer un personnage de film des années 80 que vous aimeriez, genre votre fantasme, ça serait de le voir dans un jeu de combat.
Terminator, alors, si clairement.
Alors, bah, Terminator, il y est déjà. C'est ça le pire.
Ah bon ?
C'est qu'il y est déjà dans Mortal Kombat 11. Ils ont Terminator, ils ont Robocop, et maintenant ils ont, tenez-vous bien, ils ont, enfin ils vont avoir Rambo. Il va y avoir Rambo dans Mortal Kombat 11.
Là, potentiellement, c'est Gotti. Hein, ça dépasse Spider 4 même.
Donc, on va pouvoir faire un combat contre... Eh, franchement, il manque plus que Predator. Je sais pas. Jean-Claude Van Damme, après. C'est ce qui est marrant parce que le Johnny Cage est une parodie de Jean-Claude Van Damme. Le personnage de Mortal Kombat est une parodie de Jean-Claude Van Damme.
Il pourrait y avoir Jean-Claude Van Damme contre Johnny Cage, ce serait trop drôle.
Mais ouais, mais ça serait incroyable. Et en plus, je pense que certains de ces acteurs seraient pas contre l'idée de récupérer un petit peu de sous. Je pense à Jean-Claude Van Damme notamment, je suis sûr qu'il fait encore de l'argent. Mais ouais, donc on a Rambo qui est modélisé dans le jeu et qui va être un personnage. Bref. Je suis... Ah, on me dit dans la chatroom, oui, pour le coup, ça devient... Ah merde, comment il s'appelle ce film ?
Expandable,
voilà. Ils disent Walker, Texas Ranger, Mr. T, effectivement, il y aurait de quoi faire quelque chose. Mais ça devient Expandables. Qui d'ailleurs, Expandables 1 est moyen, mais Expandables 2, ils sont à fond dans le second degré. Et c'est
ils sont plus confiants.
C'est rigolo, hein.
Ouais. C'était rigolo.
Très très bien, Expendables 2. Si vous ne l'avez pas vu parce que vous dites « Ah, oh, c'est un film débile avec machin », franchement, ça vaut le coup. Guilty Gear Strive, on parle de beaux jeux. C'est pas un jeu qui est... Il a déjà été annoncé, on a déjà vu des graphismes, mais il y a un nouveau personnage qui a été annoncé avec une bande-annonce. Et vous savez quoi ? Il est tellement beau que j'ai envie d'en reparler. Guilty Gear, c'est un jeu de combat qui est développé avec de la 3D, mais avec de l'esprit 2D en fait. C'est Arc System Works qui est un spécialiste du genre et ils ont sorti cette nouvelle bande-annonce, mais c'est tellement beau, je sais pas, j'ai rien d'autre à dire en fait, c'est juste Guilty Gear, c'est trop beau, c'est ça. Donc voilà, je vais juste laisser l'image un petit peu en fond pour vous parler également de Marvel's Avengers. Je préfère laisser l'image de Guilty Gears quand je pars de Marvel's Avengers. Les choses vont pas très bien pour Marvel's Avengers, comme on pouvait s'en douter. Il y a moins de 1000 personnes en simultané sur Steam. En gros, ils n'ont pas vraiment réussi à garder le public. Et ils disent « Ah, oh, mais vous inquiétez pas, ils vont revenir avec tous les trucs qu'on a annoncés, les nouveaux personnages, tout ça. » Autant moi, vous le savez, j'aime beaucoup le système de combat et c'est le seul truc que j'aime bien dans ce jeu. Et je me dis « Avec des nouveaux personnages, ça donne des nouveautés intéressantes parce que le système de combat est bon. » Autant c'est pas les deux nouveaux Hawkeye qui vont sortir, Dieu sait quand ils sortiront, qui vont nous ramener beaucoup de monde sur le jeu. Donc bon, peut-être arranger au niveau des jeux qui seront peut-être à revoir quand ils referont, quand ils feront une refonte substantielle. The Medium, qui est un des jeux intéressants de la Xbox Series XS, sera disponible le 10 décembre. Moi, je pensais qu'il sortirait à la sortie. Vous savez, c'est ce jeu qui ressemble un tout petit peu dans l'esprit à Silent Hill, parce qu'il y a deux mondes en parallèle, sauf qu'on peut passer de l'un à l'autre sans temps de chargement. C'est Bloober Team qui le développe. Et il sera disponible en exclusivité sur Xbox Series S en décembre. Et celui-là, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et comme j'aurais... sans doute pas de PlayStation 5 et que je serai sur ma Xbox, bah, série X, bah, j'essaierai peut-être The Medium. Et enfin, de quoi je voulais vous parler d'autre ? Si vous en avez marre des consoles mini, il serait pas impossible que vous en ayez encore plus marre parce qu'il y a une Dreamcast mini sur laquelle Sega pourrait potentiellement être en train de travailler. C'est alors un truc dit de biais dans une interview qui n'avait pas grand-chose à voir. Mais peut-être que ça sera le cas. Alors, on me dit que le live a planté. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le live est revenu ? Dites-moi. Parce qu'il y a des gens qui disent encore Day One, je pense que c'est revenu. Et donc, on a, qu'est-ce que je disais ? La Dreamcast Mini. Ça vous intéresse la Dreamcast Mini, vous ?
Écoute, moi, les seuls jeux qui qui m'amuserait un peu de rejouer sur Dreamcast, c'est des jeux avec le pistolet, genre House of the Dead 1 et 2, qui étaient super. Le reste, même plus de...
D'accord.
Extrêmement marquant. Et toi ?
Hugo ?
Ah oui, pardon, je pensais que je renvoyais la balle à toi. Non, j'avoue que c'est pas forcément une console qui a marqué mon parcours de joueur, mais par contre, je pense qu'il y aurait clairement une clientèle potentielle pour ça, parce que la Dreamcast, c'est quand même une console qui a son petit lot d'adorateurs et qui, à mon avis, serait largement prédisposé à mettre 100 balles ou 150 balles dans une Dreamcast mini. C'est possible.
C'est possible, je ne ferai pas partie de cela, parce que voilà. Je ne suis pas... Bon, je suis peut-être un pigeon, mais pas un de ces pigeons. Allez, deux derniers trucs dont on va discuter rapidement. D'une part, il y a un tweet qui a été un petit peu viral, qui mentionnait un truc qui existe depuis, enfin qui est connu depuis longtemps. C'est le pourcentage de complétion des jeux PlayStation 2. Et en gros, combien de gens finissent les jeux ? Et on est à des pourcentages qui sont assez surprenants. Le top des jeux les plus finis, c'est... alors, au début de l'été, on a eu une nouvelle entrée, et c'est pour ça qu'ils en parlaient. The Last of Us 2, c'est 58%, et c'est le jeu le plus terminé de la PlayStation 2. Après ça, on a Final Fantasy VII Remake...
PlayStation 4.
PlayStation 4, oui, bien sûr.
Sur Final PlayStation Fantasy... 2, je crois que le taux de complétion de The Last of Us 2 est zéro.
Il faut dire qu'il n'est pas facile. Il n'est pas facile à faire.
C'est vrai. Final Fantasy 4, 7 Remake est à 53%. God of War, 51%. Marvel, Spider-Man, 50%. Et ça va de plus en plus bas dans la suite de la liste. The Witcher 3 est à 26% seulement. Et ça m'a fait tiquer parce que même si on savait déjà le truc, ça n'avait pas fait tellement de bruit. On entend souvent les vrais gamers, on aura beaucoup fait référence aux vrais gamers aujourd'hui, les vrais gamers dire « Oh, les jeux !» Ouais, à Hugo, on a beaucoup fait référence à Hugo. Les jeux, il faut que ça dure 60 heures, sinon c'est de l'arnaque, machin. Mais enfin, vraiment, quand on voit à quel point ces jeux-là sont pas terminés, j'ai été surpris que les jeux soient... Les jeux que les gens finissent le plus, il y a que 50% des jeux qui les finissent, des gens, pardon, qui les finissent, c'est peu, quoi. Donc des jeux à 10 heures, pourquoi pas ? Moi, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Bon, et non, allez-y.
Que, tu vois, dans les open world, en général, il y a tellement de sous-quêtes à faire, d'altitude rara ou ramasser un morceau de pain qui a été oublié par la boulangère sur la route.
Tous les morceaux de pain de toutes les rues, hein.
C'est un bon moyen pour les développeurs, tu vois, de justifier finalement les 70 ou 80 euros de prix sur les jeux. Mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Et tu vois, dans le lot, en fait, dans la liste que tu montres, il y en a un qui n'est pas du tout open world, c'est Détroit. Le reste, Uncharted, plus ou moins.
C'est pas des open world. Uncharted,
Lost Legacy, c'est pas la donne là, qui est semi-open world.
Ouais.
Il y a un niveau ouvert, mais c'est pas.
C'est ça, je le qualifierais pas d'open world.
C'est vrai, mais bon, à part donc Uncharted, Last of Us et Détroit.
Final Fantasy VII, c'est pas vraiment un open world. God of War,
c'est
à moitié.
C'est pas du tout un open world, c'est un couloir, Final Fantasy VII, mais ouais.
Marvel, mais oui. Spider-Man, oui. Détroit, pas vraiment, mais Ghost of Tsushima, oui. Horizon Zero Dawn, oui. Days Gone, oui. Bloodborne, oui. Pas vraiment. Enfin, oh, remarque, est-ce qu'on peut le qualifier d'open world,
Semi-open world, peut-être.
C'est non pour la game design, c'est non, mais...
D'accord. Non, disons qu'on peut, mais c'est quand même assez gaité, quoi. Si t'essayes d'aller à un endroit où t'es pas censé aller, tu vas bien te faire rétamer assez vite, quoi.
Non, mais finalement, ouais, Hugo.
Disons que la moitié sont des open world. La moitié des jeux de la liste sont des open world. Mais ça, c'est plus que la moitié des jeux tout court sont des open world, je pense.
Il y a aussi cette réalité-là, mais c'est vrai que c'est aussi des jeux qui ont The Last of Us 2, par exemple, qui a une narration extrêmement présente et qui est vraiment là pour te driver jusqu'au bout. C'est un jeu à finir, The Last of Us 2, quand même. Alors qu'à l'inverse, The Witcher 3, faut quand même être engagé dedans. C'est-à-dire que oui, tu peux faire la première partie, la deuxième, mais c'est un jeu qui est assez éreintant, ne serait-ce que par la longueur par le temps qui te demande d'investir. Donc, ça m'étonne pas que ça soit ces titres-là, même si moi, c'est vrai que ça m'a surpris avec FF7 Remake, parce qu'il est quand même long. Et peut être assez répétitif, mais je pense que ça parle peut-être à un public, justement, les gens qui l'ont acheté sont peut-être un peu plus engagés, contrairement à des grosses cibles que sont, je sais pas, les God of War et compagnie, qui vont peut-être toucher un peu plus de monde.
Ouais.
Mais, euh, Mais voilà, c'est des chiffres qu'on connaît. Hein. Si vous regardez sur Steam, c'est encore pire. Hein. Vraiment, on est plutôt. Enfin, prenez n'importe quel jeu, en général, on tombe autour de 25-30% de complétion. C'est ça les vrais chiffres, c'est ça la réalité. Et c'est pour ça que voilà, les développeurs, en général, soignent beaucoup plus le début de leur jeu que leur fin. Parce que bah, les gens ne les finissent moins.
Moi, ce qui me brise le cœur là-dedans, c'est Red Dead Redemption 2, quand même, qui est, pour moi, c'était mon GOTY d'il y a 2 ans. Et ouais, 28,6% des gens qui l'ont terminé, c'est oh là là, catastrophe. Hein.
J'avoue qu'il y a beaucoup de jeux dans cette liste que je n'ai pas terminé. J'ai peut-être un peu moins de temps que certains d'entre vous, mais ce qui me fait plaisir, c'est... Enfin, ça me fait plaisir. Beaucoup de gens ont critiqué justement la narration et l'histoire de The Last of Us 2, mais clairement, ça a marché parce que les gens qui l'ont acheté l'ont énormément plus terminé que les autres.
Alors j'ai une question parce que moi je l'ai pas terminé.
Ok, pas de spoiler, hein.
J'ai pataugé, j'y suis pas arrivé. Ouais. J'ai joué 10-12 heures. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je pousse ?
Bah moi je te dirais oui, je l'ai adoré, mais je sais pas si c'est difficile de dire si. Je pense que ça vaut le coup que tu pousses. Tu risques d'avoir un. Est-ce que t'es arrivé au milieu de l'histoire ? Tu sauras si t'es arrivé au milieu de l'histoire.
Juste avant, en fait, le milieu
bon,
de l'histoire.
Bon, continue. Moi, je pense que ça vaut le coup. Mais, ouais. Mais Dany, tu es tellement cynique et méchant. En fait...
Ah, attends, j'ai du mal à m'identifier, en fait, avec Ellie.
Ah, t'as bien changé,
alors. Elle est désagréable, antipathique, violente.
Bah oui.
Bah du coup, justement, va effectivement au bout, parce que c'est ça que je...
Ouais. Ouais, voilà.
Non, mais je n'ai rien dit. Mais je dis juste que c'est un jeu effectivement qui mérite d'être fini parce que voilà, ça peut être une des raisons. Voilà.
Ok, bah, écoutez.
Et je dirais que je suis surpris parce que méchante, désagréable, violente, pourtant ça correspond bien à ton,
mais elle est
à
pas
ton
assez.
Caractère. Ah, pas assez,
elle est pas
c'est
assez.
Ça. Vous savez,
oui, bien sûr.
autant moi avec Dany, je suis pas tout. Autant lui, c'est vous savez, c'était quoi ? C'était Orangina. Mais pourquoi est-il si méchant ? C'est Dany. Dernière chose, allez, on va quand même l'évoquer, les syndicats, parce que c'est un sujet qui est proche de mon cœur. Les syndicats de Blizzard Europe ont appelé à une grève le 14 octobre, donc hier, jour de lancement du pré-patch pour Shadowlands. Ils ont appelé les 285 employés de Blizzard Europe à faire grève. Et c'est intéressant, il y a eu beaucoup de réactions. Je vais juste vous donner mon interprétation. Si vous voulez, mes pensées sur l'ensemble de la relation entre Activision et Blizzard et la manière dont elle change, j'ai sorti une vidéo sur YouTube, c'est pas dur, hein, youtube.com/notepatrick, hier, qui a l'air d'être assez appréciée dans l'ensemble, où je parle de ce point en particulier, de la manière dont les relations entre Activision et Blizzard ont l'air d'évoluer avec le temps. Mais sur ce point de la grève, c'était vraiment intéressant parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était vraiment dans le but de garder les emplois en France. Ça ne va pas arriver. C'est un petit peu comme quand il y a quelqu'un qui dit « Ah ben moi, je veux un divorce » et l'autre dit « Ah ben non, mais moi, je veux que tu restes à la maison. » Mais je t'aime plus, je suis désolé, je veux un divorce, je vais partir. Ben non, tu ne peux pas le faire rester. Bon, je ne sais pas si la comparaison est adaptée, mais pour moi, mon interprétation en tout cas, c'est que c'est clairement... une volonté médiatique des syndicats de faire du bruit pour obtenir des packages de départ plus importants. Et c'est très bien, et tant mieux. Les employés vont avoir plus d'argent en partant, c'est ce qu'on peut leur souhaiter, mais je ne crois pas que ça va... Enfin, l'idée que Blizzard va tout à coup, Activision, décider de ne pas fermer Blizzard Europe, finalement, parce que les syndicats ont fait grève, enfin, parce que les employés, pas les syndicats, ont fait grève, si... J'ai vu des gens, je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont réagi sur Twitter et ailleurs en disant « Oui, sauvegardons nos emplois ». Je suis désolé, mais c'est pas ce qui va se produire, quoi. Et c'est même pas, c'est ça qui est important. Je pense pas que dans l'optique des syndicats, ça soit vraiment ça le but, même si c'est ce qu'ils disent. Le but, c'est de mettre une pression sur la direction pour être dans une meilleure position de négociation. Et en plus de ça, certains disaient oui, même un jour de patch, on fait grève. Bon, ça a pas eu beaucoup d'impact sur le fonctionnement de la boîte. Donc c'est pas ça qui est l'importance dans cette démarche. L'important, c'est de mettre la pression sur la direction pour que les employés puissent partir avec plus d'indemnités de départ. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si... Bon, bah clairement, on va s'arrêter là pour les commentaires sur la grève de Blizzard.
Non, mais enfin, pour moi, la seule chose qui compte...
Non, mais vous n'avez pas à commenter. Vous
les, les employés s'en sortent le mieux possible et... Ouais. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne sais pas si ça fonctionnera ou pas, cette grève, ou ça peut influencer de quelque manière que ce soit, mais bon.
Bah si, la manière dont ça influence, c'est que ça amène l'opinion à en parler, et donc Activision à ouvrir plus le portefeuille pour que les choses se terminent rapidement et sans bruit. Moi, je pense que c'est ça. Et,
c'est logique, oui. Mais...
Et dans tous les cas, Activision va... Enfin, soyons clairs, Activision ne va pas dire « Ah non vous faites la grève, vous détestez notre boîte, vous savez qu'on vous déteste vous et qu'on veut fermer la boîte, donc en fait on va la garder ouverte et vous allez continuer à bosser comme si de rien n'était. » Je veux dire, c'est évident, mais j'ai vraiment vu des gens penser que c'était le but, donc je voulais le mentionner.
Ah ouais, non, ça c'est impossible. Au contraire, ça ne peut que motiver Activision à continuer dans la fermeture des bureaux.
À vrai dire, moi je pense que ça ne change pas leur direction. Ils savaient que ça allait se produire et ils savaient qu'ils vont devoir ouvrir le portefeuille, et tant mieux. Bref, bon. Écoutez, je pense que c'est sur cette note d'optimisme qu'on va conclure cet épisode. Je vous remercie de nous avoir suivis. Avant de se quitter, bien sûr, je vais proposer à Hugo et à Dany de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. Commençons par Hugo.
Eh ben c'est facile, donc déjà sur Twitter HugoGND, sur YouTube GameNextDoor, vous nous trouvez facilement, et en podcast d'Enfin du Game avec Maxime, avec Exerve, et là c'est facile, juste sur votre appli à côté du RDVGE, on doit pas être loin, Fin du Game, et voilà, vous pouvez aussi nous écouter.
Magnifique. Dany, est-ce que tu as une présence sur l'internet du cybernaute ?
Légère, mais comme d'habitude sur Twitter, je n'écris pas souvent, mais je lis toujours les messages, les tags, etc. Et je regarde surtout des vidéos d'animaux mignons, évidemment. Mon handle, c'est @notdany, NOTDANY.
Et si vous le at-mentionnez, il verra toujours ce que vous dites, donc il est effectivement un lurker, mais il est présent quand même.
Ouais, j'espère que vous me motiverez tous à terminer Last of Us.
Oui, allez-y.
J'espère en avoir besoin.
Je suis NotePatrick sur tous les réseaux sociaux. Je suis également sur notepatrick.com où vous pourrez trouver les liens vers tout ce que je fais. Notepatrick.com, c'est pas difficile. Hein. Vous aurez les liens vers le Twitch, vers le YouTube, vers le Discord d'ailleurs, sur lequel on va faire dans quelques minutes notre after show qui sera disponible pour les Patriotes. Et on risque, comme je le disais, de jouer à Among Us. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on pourra techniquement le mettre en place. Donc ça sera dans quelques minutes. Mais vous trouverez tous les liens sur notepatrick.com, je l'ai assez répété, c'est vraiment facile à trouver, et surtout le lien vers le Patreon de l'émission, c'est patreon.com/rdvjeu, si vous voulez soutenir l'émission et faire partie de cette belle famille des patriotes du rendez-vous jeu, vous pouvez le faire. Si vous n'êtes pas chez vous, comme je le dis pour le rendez-vous tech, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et ça fait cling, et là vous dites « Oh !» Kling, il faut que je pense à Patrick. Moyen mnémotechnique absolument imparable. Kling, Patrick. Et là, vous pouvez aller sur votre ordinateur et faire patreon.com/rdvjeu. Ou alors, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez même le faire en mobile, si vous voulez. Bon, allez, je vous fais deux grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode passionnant du Rendez-vous Jeu. Ciao à tous.